Partir pour des voyages qui ne tiennent pas compte du temps et de l'espace. Nourrir ta curiosité comme antidote au message anxiogène de notre société. Cultiver l'émerveillement comme un enfant face à toute découverte et nouvelle expérience. Viens avec moi. Notre départ virtuel, un lieu magique et réel. Au cœur de Rome. Notre destination, le monde, en croisant des routes insolites entre l'art, l'archéologie, l'histoire, des histoires, la culture et la nature. Comme un voyage, le podcast pour toi et pour tous les humains curieux. Salve, bienvenue, je t'attendais. Il est temps de partir de la boutique de l'horloger en direction d'Assisi, Assise en Ombrie, région du centre d'Italie et à environ 150 km de Rome. Son nom évoque l'ombre. Il s'agit en effet d'une terre ombragée, riche en eaux et forêts et montagnes côté sud-est, et plus collinaire et douce et boisée côté nord-ouest. Et c'est dans cette zone qui se trouve Assise. Cette région douce et sauvage, en même temps, possède des trésors d'art et culture du Moyen-Âge et de la Renaissance, ainsi que des zones sauvages et des oasis naturelles protégées. C'est une terre où le loup n'a jamais disparu, et qui jadis a été habité par les Étrusques et un peuple plus ancien encore, appelé Umbri, les Ombriens, qui pourraient être la souche d'origine de la plupart des autres peuples italiques, les premiers à avoir effectué l'émigration rituelle du ver sacrum. Quoi? C'est quoi le ver sacrum? Le printemps sacré? Tu veux en savoir plus? Tu peux écouter ou réécouter l'épisode précédent de Comme un voyage sur les traces du loup. J'en ai parlé déjà, car tous les voyages que je te propose sont comme des fils différents en couleur et en matière, qui tissés ensemble donnent vie à une trame variée et cohérente en même temps. Donc, Ombrie, bourg du Moyen-Âge, fêtes et traditions liées au Moyen-Âge et à la Première Renaissance. Trésor d'art, spiritualité et silence, mais aussi modernité avec des entreprises locales durables, des artisans, une prestigieuse université et des festivals de théâtre et spectacle du monde entier et un festival de musique jazz. Bref, l'Ombrie a su garder son identité et ses traditions millénaires, son serment d'allégeance avec Dame Nature, sans renoncer à vivre dans son temps. Je te laisse des liens pour continuer seul ton voyage en Ombrie. Je dois t'avouer que si jamais je devais revenir à vivre en Italie, c'est en Ombrie que je m'installerai. Et je dépasserai même la peur de vivre les ravages conséquents au séisme auquel la région est confrontée. À ce propos, je t'amène dans un passé très proche. Nous sommes le 26 septembre 1997. Il est 2h33 du matin. Une secousse d'une magnitude de 5,5 sur l'échelle de Richter frappe les provinces centrales italiennes de l'Ombrie et des Marches. Elle a pour épicentre une région montagneuse située à l'est de la ville de Foligno, toujours en Ombrie. 9 heures plus tard, à 11h41, une seconde secousse plus forte frappe ces mêmes provinces, y compris Assise, La basilique d'Assise est lourdement touchée. Deux éléments de la voûte de la basilique s'effondrent. La fresque attribuée à Giotto, représentant Saint Jérôme, et celle peinte par Cimabue, consacrée à Saint Matthieu, sont détruits. Deux experts venus pour évaluer le dégât de la première secousse et deux frères franciscains sont tués. Voilà le drame, les pertes humaines, la destruction, le quotidien tragique des jours à venir, la peur au ventre. Celui-ci, c'est l'un parmi les nombreux phénomènes sismiques qui secouent l'Italie du centre-sud. Mais cette fois-ci, il y a une chose en plus qui frappe au cœur d'une identité historique, artistique et spirituelle, la demi-destruction de la basilique, joyau de l'art médiéval, symbole d'une spiritualité qui dépasse les limites du christianisme et monument majeur de l'art italien. Pourquoi? Eh bien, parce que ces joyaux, bâtis en XIIIe siècle et complétés en XIVe, selon un style qu'on définit gothique italien, est considéré la, comment dire, la pouponnière de la Renaissance italienne. Et pourquoi? Parce que pour la construire, on fit appel à de nombreux corps de métiers et d'artistes de la péninsule, en devenant ainsi le chantier où se retrouvèrent peintres, maîtres maçons et artisans venus de toute Italie et qui travaillèrent ensemble et échangèrent leur savoir-faire, leur style, leurs innovations dans une sorte de laboratoire d'idées, en jetant ainsi les bases de ce qui sera la première forme d'art, le Quattrocento et l'humanisme italien. Mais au-delà de l'art, ce lieu est un monument de haute spiritualité et tu vas découvrir pourquoi bientôt. Moi, j'ai visité Assise à plusieurs reprises avant le tremblement du 97, mais je ne l'ai plus revue depuis. J'y suis allée avec des groupes scolaires comme guide pour des parcours d'art proposés par la mairie de Rome aux collégiens provenant des quartiers défavorisés de Rome. Ces jeunes m'ont gratifiée de leur émerveillement face à un univers que, dans ma présomption de jeune universitaire, j'imaginais leur être préclus, celui de l'art du Moyen Âge. Mais après, et avec mon expérience successive, j'ai appris que les enfants et les jeunes sont fascinés par l'art de cette période. J'ai même participé à une marche pour la paix et pour la terre, une longue marche à travers les montagnes ombriennes jusqu'à Assise, avec une multitude de personnes de toutes provenances, croyances ou pas, et de tout âge, pour rejoindre ces lieux spéciaux et hors du temps. J'ai encore tatoué dans mon cœur les instants de l'arrivée, accueillis par les sons puissants des Dunchan, aux trompettes du Dharma. Les longs corps en bronze joués par des moines tibétains. Pourquoi cette marche à Assise? Parce que c'est ici qu'est né l'homme extraordinaire et auquel la basilique est dédiée. L'homme qui, au-delà des confessions religieuses, évoque l'idée de la paix et de l'amour universel. Je te parle de Francesco d'Assisi. Le voyage d'aujourd'hui est donc un voyage dans le passé, mais aussi dans les aspects les plus intimes et moins évidents de la personnalité de Francesco, victime d'une interprétation simplifiée et édulcorée de créatures gentilles et pacifiques. Une interprétation facile, mais qui l'a privé de toute la charge d'originalité et d'extravagance de sa vie, de son caractère et de son message. Francesco, saint et mystique, mais Francesco, potentiel hérétique, Francesco, précurseur du mouvement écologiste et de la sobriété heureuse, Francesco troubadour, Francesco soufi d'Occident, Francesco fou et jongleur. Quelle lecture à choisir? Parmi les diverses interprétations de ce personnage qui a marqué l'histoire du Moyen Âge, l'histoire de l'Église, l'histoire de la relation de l'Occident à la spiritualité et à la nature, et l'histoire de la littérature, et de l'art italien. Moi, je relève le défi et je te présenterai le comment et le pourquoi de toutes ces facettes et de tous ces aspects. Toi, tu pourras approfondir après celles qui te parlent de plus ou toutes en partant par les liens que je te propose, comme toujours, en bas de la piste d'écoute. Mais pour commencer, nous allons faire un grand saut dans le passé. Nous sommes en 1180. Un marchand de tissus, originaire d'Assisi, Pietro di Bernardone, est en France pour son commerce lorsque sa femme accouche d'un garçon. Elle l'a appelé Giovanni, mais son père, au retour de France, décidera de l'appeler Francesco, soit il francese. Le français, en honneur du pays qui lui a donné l'occasion de devenir un riche marchand. On dit aussi que la mère de Francesco, Pica, venait de Provence, de ce pays occitan, origine qu'on peut retrouver dans certains aspects de la vie de Francesco. Donc, tout ferait de Francesco un jeune marchand, à son tour, qui allait reprendre les affaires de son père en association avec ses frères et vivre une vie tranquille et aisée. Et cela aurait pu être ainsi. Mais ce Francesco-là est un être divergent, à la recherche d'un sens de sa vie, un être original, intelligent, sensible et inquiet. On peut bien imaginer que la jeunesse de Francesco se passe comme pour tout jeune de son extraction sociale. Fête, culture, études de la langue française, ou mieux provençale, lecture des romans chevaleresques et des romans de la table ronde, et de la poésie des troubadours, et même une éducation au maniement des armes et aux principes de la chevalerie. Car la classe bourgeoise à laquelle il appartient s'approprie de tout bagage culturel et des coutumes de la noblesse pour affirmer son statut politique. Il faut donc revoir une certaine iconographie encore diffusée de Francesco comme un petit bonhomme chétif, maigrichon, même si c'est vrai qu'à la fin de sa vie, il le sera, à cause de sa vie. Et on suppose aussi d'une maladie contractée lors de sa captivité en tant que prisonnier de guerre à Perugia. D'ailleurs, parmi les films qui ont été réalisés sur la vie de San Francesco, il y en a un de la réalisatrice italienne Liliana Cavani, où Francesco est interprété par un acteur qui n'est pas du tout chétif et maigrichon, l'acteur américain Mickey Rourke. Mais revenons à la vie de San Francesco. Et allons voir ensemble le comment et le pourquoi de sa conversion. Au retour de cette captivité, on sait que sa façon de voir le monde change. La légende raconte que la rencontre avec un pauvre lépreux bouleverse sa vision du monde, de son monde d'appartenance et de sa vie insouciante. C'est un peu ce qui se passa bien des siècles auparavant. Selon la légende, un certain prince indien appelé Siddhartha. Siddhartha, après une vie de luxe et plaisir dans son palais, découvre la souffrance humaine en trois rencontres, celle avec un mort lors d'un cortège funèbre, celle avec un lépreux et celle avec un vieux, des rencontres qui transforment son existence, lui en souffle le sens de la compassion et de l'empathie, et qui le pousse à abandonner son existence dorée et à devenir un ascète itinérant et le fondateur de l'une des religions les plus anciennes et les plus répandues au monde. Ce prince-là est connu comme le Bouddha. J'aimerais t'amener le long des voies orientales à la découverte de l'origine du bouddhisme, de l'art bouddhiste aussi. Mais pas aujourd'hui. Aujourd'hui, je reviendrai en Italie et je voudrais te proposer juste ce rapprochement entre Francesco et Siddhartha, car ces deux personnages, pourtant éloignés dans le temps et dans l'espace, ont trois choses en commun. Une origine noble ou aisée, l'empathie profonde avec les autres et leurs souffrances, ainsi qu'avec toute forme du vivant, est une vocation à être itinérant et à ne pas vivre enfermé sa spiritualité. Oui, parce que Francesco est un voyageur.
Mais je divague. Nous étions où?
Oui, Francesco qui revient de la captivité de Perugia. Je ne vais pas te raconter dans les détails l'histoire complexe des communes italiennes au Moyen-Âge et des fréquentes batailles entre la nouvelle bourgeoisie marchande italienne et l'ancienne noblesse féodale. Batailles auxquelles s'est mêlée la papauté pour la suprématie sur le pouvoir impérial. Non, tu m'en voudrais. Il me suffit de te rappeler que Francesco vient de cette jeune classe sociale, la bourgeoisie, et qui fut prisonnier pendant l'une de ces disputes et batailles plus que fréquentes entre villes italiennes avoisinantes. Francesco, donc, rentre à Assise malade, prostré et changé. Quelque chose est changé en lui. Il essaye de se noyer dans des fêtes payées avec l'argent de son père, dans des banquets, la musique, la poésie et la littérature qui aimait autant. Jusqu'à la rencontre avec le lépreux, comme je t'ai dit, qui d'abord le dégoûte et en même temps bouge en lui de la compassion. Ensuite, il change d'attitude et à une rencontre successive avec un lépreux, il descend du cheval et il l'embrasse. Pour aimer, il faut d'abord se mettre du côté des autres. Le chemin de la conversion en tant que changement radical de vie fut long et tortueux. Et la légende des trois compagnons, une des biographies sur la vie de Francesco, relate le long et difficile abandon des anciennes habitudes. L'épisode le plus spectaculaire de cette conversion fut la confrontation avec son père Bernardone. Là, de voir son argent et ses tissus vendus par ses fils un peu dérangés, qui vendaient tout pour offrir de quoi vivre et manger aux plus démunis. Et suite à la plainte portée par son père devant les autorités de la ville, devant l'évêque d'Assise et une population intriguée et abasourdie, Francesco rendit les biens volés, selon les dires du père, par son fils. Il arriva à se dénuder devant tout le monde pour lui rendre même ses habits, les habits qui appartenaient au père. Essaye d'imaginer. Le fils d'un personnage notoire et aisé de la ville, nu comme un ver devant la foule. Il ne s'agit pas d'un geste de pénitence, mais bel et bien d'un geste révolutionnaire. Francesco rejette la paternité de Bernardone, mais aussi l'appartenance à une classe sociale et à ses valeurs. J'imagine le courage un peu fou d'abandonner sa vie dorée, habitée par ce sens de compassion qu'il habitera toujours. Abandonner les richesses, les compagnons de festin, et j'imagine la réaction des habitants d'Assisi. Il paraît que tout d'abord, ils pensèrent qu'il était vraiment devenu fou. Puis, on commença à l'insulter et à lui lancer de la boue, des cailloux, quand il passait, habillé d'une pauvre tunique en jute. Mais il y en a eu qui commencèrent à être intrigués par son comportement, et des jeunes gens commencèrent à s'unir à lui, dans une petite communauté insolite et, disons-le, pour l'esprit bourgeois et marchand, plutôt anticonformiste. Les premiers à s'unir à lui furent Angelo, Rufino, Leone. Il était parmi ses amis les plus chers. Je ne peux pas te détailler toutes les phases de l'évolution, ni te citer le nombre de personnes de toute classe sociale et appartenance qui s'unirent ensuite à Francesco. Mais je vais te parler d'un, ou mieux d'une, des jeunes ombriens qui, touchés par Francesco et par son message, abandonna la vie de richesse et d'abondance pour suivre son mode de vie et s'unir à lui. Chiara, Claire. Chiara n'avait que 12 ans lorsque Francesco se déshabille devant son père Bernardone et les habitants d'Assisi. Conquise par l'exemple de Francesco, la jeune Chiara s'enfuit 7 ans plus tard pour le rejoindre à la Porzioncola, le lieu originaire où il s'est réuni la première communauté. Francesco l'accepte. Elle lui coupe les cheveux et lui fait porter l'habit simple en jute qui portent tous ses compagnons. Scandale! Une femme parmi des hommes, dans une communauté ambiguë, guidée par un fou, fils de marchand, est en plus une jeune aristocrate. Oui, parce que Chiara, née en 1194, appartient à la noble et riche famille Offreducci. Le père décide d'aller la récupérer. Chiara s'enfuit. Francesco comprend qu'il vaut mieux que Chiara se réfugie dans un monastère pour la protéger de toute accusation sur son honneur de jeune femme qui vit, seule femme, en une communauté d'hommes. C'est drôle qu'on a si peu d'informations sur la suite et sur Chiara, mis à part la création de l'ordre des Clarisses. Mais, comme d'habitude, suite à la mort de Francesco, une censure et du silence suivirent pour en faire un personnage, un saint, acceptable et conforme aux principes de l'Église. Il est temps donc de s'interroger sur la relation de Francesco avec les femmes. Oui, parce que tu peux bien te dire « Sylvia, d'accord, tu me présentes un Francesco un peu fou, divergent, qui avait une largesse de vision en contraste avec certaines valeurs sociaux et religieuses de son temps. Mais son rapport avec les femmes ?» Eh bien, si tu l'as pensé, je vais te répondre. Son rapport aux femmes, ou plutôt à l'idée de la femme, n'a rien de commun avec l'idée proposée par l'Église et qui a donc nourri l'imaginaire collectif catholique. L'Église catholique a utilisé, dans sa vision misogyne, le célèbre épisode de la tentation d'Ève et de la pomme, de sorte que le plus grand blâme pour la chute de l'homme retombe sur la femme. C'est elle, en fait, qui a cédé à Satan, et c'est elle qui a désobéi. Elle est donc l'être pervers, habité des traits abjects qui conduisent l'homme à la perdition. Mais Francesco ne partage pas cette vision. Lui, il suit l'Évangile à la lettre. Et Jésus a eu des disciples femmes. Et son message s'adressait clairement à toute l'humanité, sans distinction de sexe ou considération d'infériorité et de soumission de la femme à l'homme. Et notre Francesco va plus loin. Écoutez ce qu'il écrit dans une relecture surprenante du célèbre épisode de la Bible de l'expulsion du paradis. Le Seigneur dit à Adam, « Mange les fruits de n'importe quel arbre du paradis, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la science du bien et du mal. » Et plus avant, Adam a mangé de l'arbre. Il s'ensuit que vous supportez la douleur. Voilà, c'est quelques phrases extraites des Ammonizioni, soit 28 exhortations écrites par Francesco pour ses frères. Mais tu ne trouves pas qu'il manque quelque chose? Eva n'est pas nommée. Adam suffit à François pour résumer, sans aucune misogynie et sans distinction de masculin et féminin, toute l'humanité. En revenant au motif du paradis sur terre, le paradis perdu à jamais, Francesco était conscient que la transgression accomplie par Adam et Ève avait troublé non seulement l'homme, mais l'ensemble de la création en détruisant un équilibre harmonieux de l'homme avec la nature. Ce qui explique l'empathie de Francesco avec tous les animaux, y compris ceux qui sont craints et haïs. Je t'ai raconté des histoires et des légendes sur le loup, des loups-garous, des dieux-loups, tu te souviens. Francesco est né dans la zone d'Italie qui correspond aux anciens lieux liés au mythe et à la sacralité du loup. Et ici, je vais te raconter
Un des épisodes les plus célèbres de la vie de Francesco, qui a eu comme sujet un loup. Nous sommes à Gubbio, à l'époque de Francesco. Je te la décris pour que tu puisses me rejoindre là-bas avec ton imagination et vivre cet épisode extraordinaire. Gubbio est un bourg qui se trouve sous les montagnes, un bourg imprégné d'une aura toute moyenâgeuse, un bourg haut perché et avec une place magnifique qui semble flotter dans les airs. Revenons au temps de Francesco. Les habitants de Gubbio sont exaspérés et angoissés. Un loup énorme et affamé les menace. Et il est tellement affamé qu'il n'hésite pas à rentrer dans le bourg pour dévorer le bétail, les animaux domestiques et les enfants. Alors Francesco décide de les aider et de se rendre dans la forêt où le grand loup se réfugie. Il le voit, le grand méchant loup. Il l'appelle Frère Loup et lui dit à peu près: Frère Loup, ne fais plus du mal aux habitants de Gubbio. Frère Loup, tout le monde t'hait et te craint. Veux-tu vivre en paix?
Le loup écoute. Il est touché et il donne son consentement à ce pacte de paix offert par Francesco en offrant sa patte à Francesco comme pour marquer son serment. Et ensuite, Francesco rentre à Gubbio avec le loup à ses côtés et il dit aux habitants de Gubbio:
Voici frère loup, il a faim et l'hiver est rude. Il s'engage à ne plus vous attaquer. Mais vous devez vous engager à le nourrir pendant les rigueurs de l'hiver.
Les habitants acceptent et le loup devient leur protégé. On raconte que telle fut l'amitié qui liera le loup de Gubbio aux hommes et aux femmes de ce village que, quand des années après celui-ci mourut, toute la ville de Gubbio le pleura. Voilà une belle histoire de Francesco, le fou des dieux qui parle aux animaux. L'hérétique qui prêche la parole de Dieu et révisite l'histoire de la tentation de Ève dans la Genèse. L'homme dont la vision panthéiste est liée à la sobriété, la pauvreté choisie comme geste révolutionnaire et non geste de pénitence. Tout ça pouvait être dérangeant pour l'Église catholique. Et si Francesco n'avait pas demandé au pape Innocent III à autoriser sa règle, il aurait peut-être pu être condamné comme hérétique. Mais Innocent III avait bien compris que la vraie menace de l'Église, c'était de ne pas reconnaître l'esprit du temps, où beaucoup de mouvements religieux, aux marges de l'Église, réclamaient un retour à l'esprit originaire de l'Évangile, et qu'il fallait profiter de ce fou venu d'Ombrie qui allait dans ce sens, et qu'il aurait été plus avantageux de l'accueillir au sein de l'Église plutôt que dans les flammes d'un bûcher. D'ailleurs, le pape Innocent III en allumait des bûchers. Ce fut lui qui ordonna la croisade contre les Albigeois, ou cathares, comme on les appelle aussi. Un épisode qui nous ramène encore en pays d'Oc. Une véritable croisade contre des chrétiens. Un épisode atroce qui laissa une cicatrice incurable dans la belle, riche et cultivée terre du sud de la France. Mais celle-ci est une autre histoire. Cependant, la limite entre la pensée franciscaine et l'hérésie cathare n'est pas si facile à tracer, à tel point que des frères de Francesco, guidés par Frère Pacifico, rendus en France pour y prêcher, furent arrêtés et emprisonnés et interrogés. Je n'ose pas penser de quelle manière, car pris pour des cathares, donc pour des hérétiques. Il fut nécessaire une lettre du pape Honorius III pour confirmer que le frère obéissait à une règle acceptée par l'Église, arrivée tout juste avant que cet équivoque ne finisse pas avec des franciscains au bûcher. L'approbation officielle de l'ordre des franciscains, soit la bulle papale, cette fois-ci écrite et non orale, fut rédigée par ce même pape Honorius le 29 novembre 1223. Et là, je vais te raconter quelque chose d'intéressant. Nous avons cette scène représentée dans le cycle de fresques de Giotto à Assisi,
dans la basilique. Mais ici, le but était de rendre une certaine austérité et de créer un cycle édifiant de la vie de Francesco et de, comment dire, d'effacer certains aspects de sa personnalité et son agir plutôt dérangeant. Donc, dans la scène de Giotto, nous voyons Francesco debout, à gauche, face au pape Honorius III, en s'adressant aux pontifes et aux cardinaux. Par terre, devant lui, est assis un autre franciscain qui écoute le discours du saint. Le pape et les cardinaux suivent également avec une grande attention. C'est une scène sobre, pleine de dignité et de calme. Mais, en réalité, cet épisode se déroula en toute autre manière. Dario Fo, un giullare, que je traduirai comme à la fois bouffon, jongleur, comédien, mais un giullare des temps modernes, héritier de la commedia dell'arte et prix Nobel de la littérature, dans une pièce théâtrale dédiée à Francesco, dont tu auras le lien, explique que Francesco, comme le montrent de nombreuses biographies de la vie du saint, n'avait pas du tout une approche traditionnelle du sermon, comme il semblerait dans la scène de Giotto. Francesco connaissait les différentes techniques des giullari, les jongleurs bouffons, et les utilisait à la perfection. Il avait également des capacités naturelles de mime, typiques d'un vrai giullare. Et devant Honorius, à l'occasion de l'approbation de la règle, il décrit les dons que Dieu avait accordés sans pouvoir se contenir de sa joie, qui est un autre trait typique de son caractère, la joie. Et il commença à utiliser ses bras et tout son corps et à danser avec rythme et harmonie, suscitant non seulement de l'amusement, mais aussi une grande émotion chez les papes et chez les autres spectateurs. Quel génie d'acteur, hein, ce jongleur, hein, ce fou de Dieu qui était Francesco. Lui-même utilisera ce terme pour dire à ses frères comment s'adresser aux auditeurs, comme des jongleurs de Dieu, des giullari di Dio. Alors, là aussi, notre Francesco est épatant. Encore plus si je te dis que tout au long du Moyen-Âge, les bouffons étaient aimés du peuple, mais persécutés par les puissants, qui d'ailleurs ont souvent rédigé des édits contre les jongleurs et les bouffons. Tu veux en savoir plus sur cette divergence et cette originalité de Francesco? Eh bien, je t'invite à me suivre encore une fois dans le passé. Nous allons en Égypte lors de la cinquième croisade et nous suivrons les traces des croisés. Nous y trouverons Francesco en mission auprès du sultan Malik al-Kamil lors du siège de Damiet. Pour convertir le sultan? Peut-être, mais je ne serai pas si sûre. Les anecdotes sur la vie de Francesco, en plus des affinités avec les aspirations de certains mouvements hérétiques, on fait penser à des affinités avec la pensée soufie. Et si Francesco avait été un admirateur du soufisme? Historiquement, ce n'est pas improbable, mais avant tout deux mots sur le soufisme, seulement deux, et certainement pas exhaustif. Le soufisme est une dimension mystique de l'islam. Les soufis croient que le passage de la lumière divine passe par le cœur et l'amour, ainsi qu'avec des pratiques extatiques comme les danses tourbillantes de Dervish Turner. On ne peut pas exclure que Francesco ait voulu connaître un peu plus ce mouvement en recherchant un dialogue direct avec les maîtres soufis, puisqu'il a tenté à plusieurs reprises de voyager au Moyen-Orient. À 30 ans, il a essayé d'aller en Syrie, projet qui n'a pas abouti à cause des problèmes financiers. Puis, il a essayé d'aller au Maroc. Mais là, il est tombé malade en cours de route. Ce n'est qu'en 1219 qu'il parvient à rejoindre Damiet en Égypte, alors que les guerres en Terre Sainte font rage. Faisons un saut dans le passé. Nous sommes en Égypte, devant Damiet, pendant la cinquième croisade. Les croisés assiègent la ville. Francesco est là, mais que fait-il? Selon la chronique chrétienne, il est là pour convertir les sultans au catholicisme. Mais dans les camps des croisés, il tente surtout de les dissuader de poursuivre les combats. Folie. Et sa folie trouble ses contemporains. Surtout son inquiétant désir de franchir les lignes croisées désarmé, pour demander hospitalité à Malik al-Kamil, le sage et courtois sultan d'Égypte. Un ouvrage anonyme de 1229, en français, précise que Francesco, aigri et dégoûté par la violence des croisés, se rend chez le sultan et puis il ira en Syrie. Quant au sultan, Francesco n'obtint pas la conversion d'Al-Malik, mais des échanges de cadeaux et de gentillesses. Et c'est tout. On sait que Malik al-Kamil était un sympathisant du soufisme. Et si il avait échangé à ce propos avec Francesco? Seule certitude, c'est que le sultan ne se convertit pas au catholicisme. Ce résultat peu concluant déconcertera ses biographes, ainsi que la plupart des historiens modernes. Francesco ne visite pas le sultan pour changer l'autre, mais pour se changer lui-même. Alors, est-ce la nouveauté de l'événement d'Amiette? Et c'est là la nouveauté de ce fou de Dieu? Entre 1224 et 1226, Francesco écrivit un petit chef-d'œuvre, le Cantica de Creatura, un hymne au vivant, avec lequel semble vouloir presque se mettre à l'abri du cauchemar récurrent de la violence des croisades, en se réfugiant dans les bras de la nature. Son salut allait au soleil et à la lune, au monde de beauté et de pureté qui l'entourait. D'ailleurs, le cantique de créature trouve une correspondance dans la poésie soufie. Le grand poète et maître soufi Rumi dédia au soleil de nombreux poèmes. À ce propos, regarde parmi les liens. Il y en a un qui t'amènera dans le monde d'un musicien contemporain qui a tracé un lien étroit entre les deux mystiques, Francesco et Rumi, à voir absolument. Revenons à Francesco. Des maladies le hantent, probablement accentuées par son rigide modus vivendi, et la mort le surprend le 4 octobre du 1226. La mort lui a épargné la vue de la corruption qui contaminera même son ordre bien-aimé. Francesco meurt dans la petite église de la Porzioncola, allongé sous le sol nu. Il avait demandé à ses frères de le déposer sous la terre. Mais ne vois pas ici un geste de pénitence. Pour quelqu'un comme lui, ce geste ne signifie qu'une seule chose. Revenir à l'origine, accueilli dans les bras de la mère terre.
Altissimo onnipotente buon signore, tu è sole laude, la gloria e l'onore, et ogni benedizione. Ad te solo, altissimo se confano, et nullo homo, inidigno te mentovano.
Tu viens d'entendre le début du Cantico delle Creature en langue italienne du XIIIe siècle. Tu pourras les suivre avec le lien que tu trouveras au fond de la page et aussi avec un lien qui reporte la traduction en français. Et maintenant, avant de revenir à la boutique de l'horloger, je vais partager avec toi un témoignage que j'ai recueilli, le témoignage d'une jeune harpiste, une jeune artiste qui a été touchée par San Francesco, Santa Chiara, à tel point de faire un voyage à Assise et être inspirée pour deux créations. Mais je ne te dis pas plus, je vais te laisser écouter.
Nous sommes avec Camille et je vais poser à Camille des questions concernant son parcours à Assise et ses créations sur François et Claire. Alors, la première question, Camille, comment tu as connu Francesco et qu'est-ce que tu connaissais avant ou après Assise?
Ciao Silvia.
Ciao Camilla.
Alors, mon histoire avec Francesco, Saint-François d'Assise, remonte à vraiment pas si longtemps, en vrai, pas avant 2019, avril 2019. Mmh. Avant ça, alors je trouve que ça me fait rire à chaque fois, mais la seule chose que je connaissais de Saint-François d'Assise, c'était une blague de Philippe Geluck avec le chat,
oui.
qui dessinait Saint-François d'Assise, et qui, tu vois Saint-François qui marche sur l'Assise. Voilà. D'accord. Et c'est la seule chose que je...
Ok, donc tu savais que ça. D'accord, très intéressant.
Je partais de là, tu vois. Et je ne savais même pas qu'Assis était en Italie, tu vois, des choses très simples comme ça. Et en fait, vous avez organisé chez toi, avec Albert et notre regretté Jean-Claude.
Connu comme Sir Duzig et Sir Triboulet.
Tout à fait. Vous avez fait une conférence ensemble musicale et sur l'aspect historique et donc chrétien aussi, la mythologie chrétienne autour de Saint François. Mm-hmm. Et donc j'ai complètement découvert le personnage à ce moment-là. Le fait que en fait il paraissait presque, alors ça va peut-être être osé ce que je vais dire, mais finalement il était presque comme un druide, en tout cas très proche de la nature, que pour lui la religion, le sacré se retrouvait dans toute la création de la nature.
Exactement, c'est un des aspects dont on a parlé pendant le podcast. Ok, donc
et suite à ça, donc ça on était en avril 2019, il y a une chanson ensuite qui est arrivée dans ma vie, comme ça. Ouais.
Synchronicité.
C'est... Exactement. Donc, courant de l'été, c'est un bon ami, Johan Evrard, que je salue, qui jouait de la guitare, et en fait, il m'a dit, il y a une chanson que j'aimerais tellement chanter avec toi, Camille. Et j'ai découvert par la suite qu'elle nous venait d'un ami commun qui arrivait du Sud, c'est important comme détail. Il était de la région du Sud, et il avait ramené cette chanson. Johan l'a prise avec lui. Donc, il s'appelle Adrien, cet ami. Et il me chante cette chanson une première fois. Moi, je me suis dit... Alors, je ne suis pas catholique, de base. Hein. Oui. Je suis plutôt d'une éducation, d'ailleurs, à la base, qui a renié un peu son... Enfin, voilà, qui a voulu se couper un peu du lourd passé qui était associé, malheureusement, tradition catholique.
Bien sûr. Hein.
Voilà. Mais je suis quand même de tradition chrétienne, on va dire. Mais disons que voilà, je suis une certaine distance avec ça. Quand j'entendais la chanson « Descendez Angers Archange, voici un espace dédié aux oiseaux », etc., je me suis dit « Oh, ça sonne très...
Église, hein.
Voilà, catholique, tradicato,
mais c'est joli. Avec la guitare, voilà.
C'est mignon, je me dis pourquoi pas. Et puis je commence à apprendre les paroles, et à force de les chanter, je me dis, mais il y a quand même quelque chose de spécial dans cette chanson, on cherche les accords, etc. Donc je commence à apprendre la chanson avec lui. Ensuite, en septembre, je descends avec mon amie Dana, qui est chanteuse harpiste, avec qui on bougeait beaucoup ensemble. On a organisé une tournée dans le sud de la France. La personne qui nous a organisé cette tournée s'appelle Patrick Dersin. Oui. Et Patrick, il adore Saint-François d'Assise. Oui. Il a une passion pour lui. Et on s'est dit, j'ai proposé à mon amie Dana, vas-y, on apprend cette chanson, il va adorer, on va lui chanter. Ça sera, on pourra l'ajouter à notre répertoire pendant la tournée. Donc on apprend la chanson durant la route. On arrive là-bas dans l'église de Brenac. On la chante pour la première fois. Donc d'abord a cappella toutes les deux. Mm-hmm. On porte la voix avec les harmonies. Oh, il se passe quelque chose de tellement puissant, tellement fort et hyper touchant. On en pleure toutes les deux à la fin de la chanson.
Ah oui, d'accord.
C'est tellement sacré.
Tellement fort, sacré, oui. Elle est sacrée, ça va au-delà de la croyance religieuse en fait.
Exactement, ça dépassait tout ça, vraiment. Et Patrick, qui lui aussi a les larmes aux yeux, nous dit « Mais je connais très bien cette chanson, parce que je connais l'auteur de cette chanson. » Alors moi, je pensais que c'était une vieille chanson, qu'on avait perdu l'auteur peut-être. Pas du tout, c'est Michel Garnier qui a écrit un oratorio dédié à Saint-François d'Assise, dont cette chanson, « L'hymne aux oiseaux » est issue. Et il la chante avec un orchestre, et c'est Pacoun, notamment son ami, qui chante cette chanson.
D'accord.
Avec lui.
Et donc, Patrick, François, il est venu sur ta vie deux fois. Ouais, il est arrivé dans ton chemin.
Et Patrick nous dit qu'il avait fait justement tourner Michel Garnier et Pacoun. Ils avaient créé une association ensemble pour jouer ensemble dans toute la région de l'Aude, les Pyrénées. Et en fait, on allait jouer dans les mêmes endroits quasiment où ils avaient joué en fait.
D'accord.
Donc on reprenait cette chanson. Et donc les gens dans le secteur là où on allait connaissaient tous cette chanson. Moi, c'est la première fois que j'entendais cette chanson.
Que tu l'entendais après avoir connu François à travers une conférence poétique.
Exactement. Ouais. C'est fou, ça continue, il y a une étape très importante à cet instant précis. Donc notre ami Patrick m'offre un livre qui a été très important pour moi, « Clair et le soleil », écrit par Daniel Meroy. Donc Daniel Meroy, c'est un auteur très connu dans le monde spirituel, ésotérique. C'est qu'avec donc je crois que c'est Anne Givaudan. Ils étaient un couple qui canalisait les vies de Jésus, ils canalisaient et ils en faisaient des romans en fait pour mm-hmm. avoir l'histoire de vie. Du coup, ils réinterprètent un peu les histoires des personnages les plus illustres de notre mythologie, oui. Aussi bien chrétienne que enfin, je sais qu'ils ont fait les pharaons aussi.
Oui, de l'histoire, hein, oui, voilà. De l'humanité.
Complètement. Mm-hmm. Et en fait, du coup, je lis Claire et le soleil et je suis extrêmement touchée par l'histoire. C'est là que je découvre Claire.
Claire, Chiara. Bien sûr, la compagne de chemin de Francesco.
La compagne spirituelle, on peut parler vraiment de couple spirituel.
Absolument.
Et c'est, ça m'a vraiment énormément touchée parce que du coup, le livre, on le lit du point de vue de Chiara. Claire, je ne la connaissais pas du tout.
Non plus,
voilà, je l'ai découverte.
Tu n'avais pas vu une bande dessinée sur elle, en fait.
Non, okay. Gueluc n'a rien fait sur Chiara. Et donc je découvre, je connaissais les Clarisses, je connaissais l'ordre des Franciscains.
Oui, bien sûr, c'est clair. Hein.
Et je découvre qu'en fait, ils sont intimement liés, ces deux ordres, parce que c'est...
Ils sont nés tous les deux de premier pas de Francesco, bien sûr. Hein.
Et je découvre aussi en détail, vraiment, toute la vie de Francesco, en plus, du coup, en supplément de la conférence que tu avais donnée en avril. Et je sais que je suis invitée en février à aller en Italie pour voir le carnaval à Ascoli.
Oui.
Massimiliano Di Carlo, qui a une association sur place, Alberi Di Maggio, il m'invite à venir rendre les visites là-bas, voir comment ça se passe, le vrai carnaval italien.
Oui.
Et sur la route par où je suis passée, Ombria.
Donc, tu vois que cette région est juste là et il y a le panneau Assisi.
Hein? Exactement. donc je décide à ce moment-là de faire mon pèlerinage pour aller à Assise.
Donc tu arrives à Assise, presque on peut dire par hasard, parce que tu n'avais pas prévu de passer par Assisi. D'ailleurs, peut-être tu n'avais même pas les idées claires sur la géographie italienne, que les marches, c'était juste à côté.
D'ailleurs, très anecdote rigolote, c'est que, effectivement, j'arrivais de la Drôme, je savais que je voulais passer par Assisi. Donc, j'avais repéré sur Maps, quand même, je savais que je voulais y aller. Mm-hmm. Alors, quoi, comment, qu'est-ce qu'il y a sur place? Je sais que je m'étais renseignée auprès de toi, voir si tu connaissais du monde qui pouvait me loger sur place. Je m'étais fixée dans ma tête que je passerais 3 jours là-bas. C'est ce que j'avais décidé, mais avoir plus de détails sur le lieu et tout ça. Et en fait, je me rends compte qu'entre la Drôme et Assise, il y a 700 km environ, en une journée, c'était compliqué à réaliser. Je me suis dit, bon, je m'arrête à mi-chemin, allez, Bologne, on va passer la nuit là-bas. À Bologne, je récupère un covoitureur le lendemain, un Français et une rencontre extraordinaire, Gilles, qui est cuisinier, qui vit en Italie depuis... une trentaine d'années et on se rend compte en plus qu'on a des amis en commun en France, enfin quelqu'un qui suit Nicolas Supio, il dit je suis fascinée par ce qu'est fait ce monsieur, et il dit mais c'est un client de la crêperie, je dis incroyable,
sacré Francesco,
le monde est si petit. Et la chose qui s'est fait très naturellement, on sentait que c'était une rencontre comme si c'était décidé d'avance. En fait, on se connaissait pas, mais on s'était donné rendez-vous sans le savoir.
Bien sûr,
lui, il devait se rendre. Alors juste avant, j'ai plus le nom de la ville, mais juste avant Santa Maria degli Angeli, enfin avant Assise.
Spoleto.
Non, c'est vraiment tout près, quasiment collé. Je me souviens plus. Mais en tout cas, là-bas, il y avait une conférence, un congrès de cuisine. Où Jill se rendait.
D'accord.
Et Jill m'explique que lui, il n'a pas de voiture, mais il doit passer 3 jours pour aller à ce congrès. Il va aller tous les jours pendant 3 jours. Et moi, je lui dis, écoute, moi, je peux te conduire si tu as un endroit où dormir ou loger en échange. Il me dit, on fait ça, tu m'emmènes et moi, je t'offre le gîte et le couvert.
Super.
Ça s'est fait tout seul, Je le dépose la première fois, il me fait rentrer dans le congrès, j'ai le droit de goûter à tous les plats, tout ça. C'est incroyable.
C'est génial,
Et je vais à Assise, et pareil, Assise, je m'étais dit aussi dans ma tête, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de marcher depuis la basilique Sainte-Claire jusqu'à la basilique, l'église
de San Francesco. La basilique de San Francesco, c'est une basilique.
C'est une basilique aussi, c'est deux basiliques, donc j'avais un doute. Mais sans savoir, est-ce que c'était faisable à pied, est-ce que c'était... Aucune idée. Je vais au pif dans Assise, Eh ben, bizarrement, je me gare pile à côté de la basilique Sainte-Claire. J'ai pas vu de panneau, j'ai pas vu. Je me dis, bon, bah, je me gare là. Ah, bah, super, c'est Sainte-Claire. Je rentre dans la basilique. Alors, je constate qu'elle est très abîmée à l'intérieur. Ouais. Je crois que oui, il y avait des tremblements de terre.
Oui, oui, c'était. Tu es allée après, suite au tremblement de terre dont j'ai parlé. Et les restaurations étaient encore en cours. Hein. C'est des longues restaurations, effectivement.
Exactement. Ça donnait quelque chose, du coup, d'assez appauvri. Mais je vois qu'il y a une crypte et je descends dans la crypte. Je suis avec ma petite bébé harpe sur le dos de 22 cordes, c'est ma harpe de voyage. Je descends avec et je me retrouve là. Je vois en fait le corps de Sainte-Claire, enfin le gisant au-dessus de sa tombe. Au moment même où je vois ça, j'ai mes jambes qui lâchent. Je tombe vraiment. Et pour pas tomber par terre, je m'accroche à la rambarde qui est à côté de moi. En fait, j'étais dans des escaliers. Mais il y a vraiment l'effet, mes genoux tombent, lâchent. Oui, j'ai plus de jambes. Et je me dis, d'accord, qu'est-ce qui se passe? Et je me sens appelée à aller vers. Je ne m'attendais pas du tout à voir le corps de Sainte-Claire. J'étais vraiment. C'était une surprise complètement.
Oui, c'était. Il n'y avait rien de préparé en fait.
Pas
c'était
du tout.
Quelque chose qui t'est arrivé.
Très spontanément. Et donc, je me décide de me mettre au pied de cette tombe. Et je sors ma harpe et il y a une mélodie qui en sort.
Ah! Donc elle est écrite en ces moments-là, ta mélodie, devant le gisant de Santa Clara.
De Santa Clara. Et juste les premières notes, les premiers accords, l'introduction de la musique. Et je sens que quelque chose émerge et je laisse venir.
Cette chanson, tu l'as entendue quand je t'ai parlé de Chiara.
Et voilà, je ne vais pas plus loin. Si je chante ensuite la chanson, forcément l'hymne aux oiseaux,
oui,
que tu as eu d'ailleurs la gentillesse, alors pas à ce moment-là, mais que tu as eu la gentillesse de me traduire en italien.
Du
coup, je l'ai chanté en italien à ce moment-là. Ensuite, j'ai une bonne sœur qui vient me voir et qui me dit tu t'es... Enfin, bon, elle ne m'a pas parlé, mais en fait, en gros, c'était gênant que je fasse de la musique à cet endroit. Je pense que c'est parce que c'était un lieu de silence, en fait, qui était dédié au recueillement, au silence. Ouais. Après, voilà, moi, elle est intervenue uniquement quand j'avais tout fini.
Oui, d'accord.
Donc, il n'y a pas eu de problème. Moi, j'ai dit, ok, je m'en vais, je pars. Et donc, je m'en vais, et là, je décide donc de traverser, en fait, tout assise.
Oui.
Pour aller jusqu'à la basilique
de San Francesco.
De San Francesco. Et je sens bien Assise, mais vraiment, c'est une très, très belle ville. Et le paysage est à couper le souffle. Il y a une atmosphère où je me sentais chez moi, en fait. Enfin, il y avait quelque chose de très familier.
Il y a quelque chose de très puissant dans ces lieux, même s'ils sont très visités. Et pourtant, il reste cet esprit. Ok, bien. Et bah, je te remercie beaucoup pour ce témoignage.
Avec
merci,
grand,
Camille.
Grand plaisir.
Descendez, anges et archanges, bénissez ce lieu. Nous voici dans un espace dédié aux oiseaux. Quelques notes d'amour pour notre mère nature. Quelques notes
Waouh! Ce voyage, il a duré beaucoup plus que d'habitude. Bon, il ne te reste que de te reposer de cette marche d'approfondir à travers le lien que je t'ai mis comme d'habitude au fond de la page et d'attendre lundi prochain. Nous n'allons pas marcher beaucoup, nous resterons à Rome. On va visiter cette fois-ci une Rome moins connue. Pas la Rome catholique des papes comme on a vu aujourd'hui, ni la Rome ancienne. On va voir la Rome des mystères, la Rome des alchimistes, la Rome exotérique, celle qui a attiré de nombreux personnages, comme toujours un peu divergents, et qui ont laissé des traces que nous allons explorer lundi prochain. À bientôt!